J'aurai l'occasion de vous renvoyer le 4 mai, consentant à certaines opinions que j'ai laissé parvenir. L'idée initiale de ce papier, c'est avant tout le fait que la Banque de France, comme vous l'avez bien compris, est en restructuration complète et que ça ouvre une opportunité archivistique qui est de tout premier ordre, dans la mesure où les archives de toutes les historiques de toutes les succursales de tous les départements sont actuellement en cours d'être versées aux archives départementales, dans tous les départements français. Ce qui veut dire que, très concrètement, pour moi qui habite la lointaine province, je n'ai pas besoin de venir à Paris pour pouvoir enfin consulter les archives de la Banque de France.
Surtout les
parisiens,
les
gars. Non, parce que
vous avez dit, non, on est dans les
mais ça va par là qu'on va trouver des choses qu'on trouverait à Paris, en particulier pour l'inspection, dans des séries continues, mais on trouvera également plein d'autres informations sur la vie concrète du comptoir ou de la succursale sur place. Et donc ça permet de compléter les dossiers des succursales qu'on trouve à la banque avec les informations sur le terrain, et également beaucoup de choses comme des journaux comptables, des dossiers contentieux, je pensais à toi. Si une occasion se présente, j'ai apporté tous les inventaires de l'île du Nord, on pourra toujours ajouter un œil. Non, c'est pour ça que j'en mets un petit peu. À côté de ça, c'est l'occasion, même si c'est un petit peu rapide, de tester quelques hypothèses auprès de gens qui travaillent sur votre famille. L'idée ensuite, c'était de centrer cette fois-ci mon étude sur la succursale, c'est-à-dire de renverser en quelque sorte le regard traditionnel qu'on a, qui est on part de Paris, on s'installe en province, et puis il y a une forme de présence centrale. Et ici, on aborde la question par le bas, par le terrain, par le local. Je vous dis que la succursale devient un lieu d'observation privilégié des rapports que peuvent entretenir Paris et la province, le pouvoir central et le pouvoir local, la finance et l'économie. Elle est parfois même avant d'exister, un espace de contact, de négociation, parfois de tension ou de confrontation entre différents acteurs, en différentes instances. Et elle peut apparaître comme le catalyseur des ambitions parisiennes et ou locales, comme le point de rencontre entre deux mouvements potentiellement contradictoires. Donc ici, je vais vous présenter, développer très très rapidement les deux idées un petit peu brûlé des coffrages que j'avais indiqué dans le spectre que j'avais fait passer à faire. D'une part, premier mouvement, la volonté de la banque d'être partout présente pour encadrer, contrôler, surveiller l'accès au crédit via les comptes. C'est ce que, de façon très vulgaire, j'appellerais une forme de nationalisation du crédit. Et puis, deuxième mouvement, une inspiration locale à disposer au plus près chez soi des services proposés par la banque, mais également de refinancer ses activités, et là ça commence très bien clairement, puisque Emmanuel a dit tout à l'heure, de se réserver tout ou partie de l'accès à l'espace. C'est ce que j'ai appelé, pour faire simple, une privatisation de l'espace. Donc, évidemment, au-delà de cette affirmation, il faut essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc j'organiserai mon propos autour de trois idées, ou trois temps. Le premier, assez rapide, c'est la banque et son réseau, comment est-ce que se constitue en particulier avec le cas du Nord. Deuxième question, j'avais également été dans ce sujet, comment obtenir une succursale? Et troisième idée, quels sont les avantages dont la présence d'une succursale, que la présence d'une succursale offre? Donc tout d'abord, tout ce qui relève de la banque et son réseau. Il y aura deux temps principaux. Le premier, c'est une forme de jus cavalière de la mise en place du réseau. Et puis après, on se refocalisera sur le Nord. Je peux aller très très vite sur la petite première partie dans la maison, voilà, rapidement évoquée tout à l'heure. La banque, elle est fondée en 1800, et donc elle s'appelle Banque Ville de France, c'est la Banque de Paris, présente, comme meilleur des cas, dans les départements, via des correspondants. On a également vu que tout à l'heure, donc à la fin du Premier Empire, se mettent en place trois comptoirs de Sconce. à Rouen, à Lyon et à Lille. Ce qu'on observe, c'est que, en tout cas pour le juridique que j'avais le plus étudié, il y a une forme d'échec de cette initiative, principalement par refus du Conseil général de poursuivre, voire même d'étendre, une expérience qui lui avait été imposée par Napoléon. Et donc ici, on a Paris qui joue contre la Provence, et qui ne veut pas forcément faire profiter l'ensemble du territoire, ou dans des conditions bien particulières, des avantages qu'elle peut s'être procurée. Ce qui explique qu'à partir de 1817, il y a une forme de continuité, en particulier à Rouen, on voit apparaître des banques dites départementales, qui sont des banques privées, le comptoir d'escompte de Rouen devenant véritablement une banque à part entière, mais en dehors du réseau. Il y en a, comme ça, une petite dizaine qui se mettent en place jusqu'en 1838, dans les centres économiques, manufacturiers et ou commerciaux, avec l'idée que si la banque ne veut pas le faire, il faut bien que nous, on ait un moyen de règlement de nos opérations. Et puis, on voit apparaître à partir des années 1835-36, la relance progressive d'une politique d'implantation de succursales. Alors, le terme de succursale, il apparaît relativement tard. Les premières, ce que nous on appelle une succursale, par exemple à Reims en 36, ça s'appelle un comptoir encore. Donc on revient à la situation du premier empire. Ça s'installe dans des centres manufacturiers ou commerciaux qui ne sont pas encore pourvus de banques départementales. On voit bien ici qu'il y a une concurrence qui s'instaure entre les banques dites privées et la banque dite de France, la banque entre guillemets publique, même si elle n'est pas. Ça ne veut pas dire pour autant que les aides bancaires soient désertes. Il peut exister sur la place quelques banquiers ayant pignon sur rue, quelques escompteurs, quelques négociants qui utilisent leur disponibilité à l'escompte. Le premier comptoir, c'est donc le de Reims en 1836. Alors c'est assez facile de voir pourquoi est-ce qu'on s'est installé là. Un, il y a la banque départementale. Deux, il y a beaucoup d'activités textiles d'une part, manufacturière, et puis négociante, c'est les campagnes bien sûr. Donc une activité économique soutenue, qui a besoin pour se développer et pour poursuivre son activité, de ressources financières accrues. Et donc, tout se conduit pour mettre en place ou assurer le succès de ce premier comptoir. À partir de là, et jusqu'en 1848, on va voir ce modèle du comptoir de la succursale se développer dans les villes qui sont concernées. Et puis, c'est surtout 48 qui change la donne. La crise financière entraîne, on sait bien, la nationalisation des banques départementales qui deviennent de fait des succursales de la banque. Désormais, elle est partout sur le territoire. Cette volonté de présence se complète par une volonté politique, implantation de succursales dans les territoires nouvellement rattachés à la France, je pense en particulier à Nice et aux Deux-Savoies dans les années 1860. Et puis, il y a une démultiplication des succursales, à la mesure où la loi de prorogation du privilège de 1857 impose, à partir de 1867, du moins peut imposer, la création, le gouvernement est en mesure d'exiger, s'il le juge comptable, la création d'une succursale dans chaque département qui n'en est pas doté. Donc il y aura bien une nationalisation du système, et finalement, on arrive peu ou prou à la carte le monde qui est ici. Là, on a 211 succursales, ça c'était juste avant la réforme, donc on en est autour de 100 en 1914, ce qui est quand même beaucoup, ça fait au moins une par département, en tout cas en moyenne. Si on regarde également d'un point de vue de la répartition géographique, on retrouve en quelque sorte la ligne du Havre-Marseille, avec au nord et à l'est une surreprésentation, au sud et à l'ouest une surreprésentation. À côté de ça, on a des cas vraiment exceptionnels, et moi, la première fois que j'ai vu la carte du monde, je me suis dit, c'est quand même très, très impressionnant. Les deux seuls endroits, les deux seuls territoires, c'est quand même le Nord et le Pas-de-Calais, donc le santé lié ou concerné. Si c'est vite, c'est quand même démesuré par rapport à au moins l'objectif officiel. Comment est-ce qu'on peut justifier cette situation? Tout ce qu'on regarde et ce qu'on voit, c'est donc que au cours du second du 19e siècle, se met en place un réseau ou un sous-réseau, entre guillemets, de la Banque de France sur le département du Nord, avec jusqu'à 10 succursales en titre en 1914. 10 sur 100 sur un seul département, c'est tout à fait particulier. Ce qu'on observe également, c'est que dès lors qu'il y a jusqu'à 10 succursales, il y a une forme de multipolarité de l'espace économique nordiste, dans la mesure où chacun va obtenir finalement qu'il soit représenté ou qu'il dispose des avantages. Alors, si on reprend la carte rapidement, je vais la pas vous la redécrire intégralement, mais je vais dire juste attention sur deux, trois petits points. Donc la première de ces succursales, c'est celle de Valenciennes, qui date de 1847. On peut faire ce que j'ai fait tout à l'heure pour Reims, c'est-à-dire expliquer ce qui milite en faveur de cette installation. C'est peut-être H3, selon toute ressemblance. Tu l'as pas ?
C'est moi qui l'ai fait sauter dans la photocopie. Ah, j'ai pas de chance alors. Voilà. Moi j'en ai une. Voilà. Ah, juste. C'est moi qui ai changé de photocopie, elle s'est échappée, ouais.
Alors, en 47, Valenciennes, de la toile traditionnellement, du charbon depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est la compagnie de Ranzin, de la métallurgie, de la sidérurgie, tout est réuni pour finalement demander ou solliciter du crédit. Et puis il y a un autre élément très important, c'est que la famille Ferrier, qui est la fondatrice de la compagnie d'Anjouan, elle est accessoirement fondatrice également de la Banque de France et siège au Conseil de Régence. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Lille, c'est facile, c'est la nationalisation de la Banque de Lille. Après, je passe rapidement, je vais faire juste votre attention sur Roubaix-Tourcoing, 1867, 69, 71, entre le moment où on l'est créé et le moment où elle est ouverte. C'est un cas exceptionnel parce que c'est une des trois que je connaisse, succursale du double. C'est-à-dire que c'est une ville, c'est une succursale qui sert à deux villes. Il y en a deux autres, c'est 4 communs d'années, là c'est un peu plus loin, et puis il y a Salon et Camber, c'est une autre configuration territoriale. Et puis à partir de celle-là, donc on est là au début des années 70, on va avoir dans les années 80 jusqu'en 1914, 1, 2, 3, 4, 5, 6 succursales nouvelles apparaissent, et dans des villes qui sont apparemment d'un poids relatif assez peu important. Donc Cambrai, Douai, Maubeuge, Fourmies, Armentières, Solesmes, on va descendre à un niveau très très bas dans la hiérarchie au moins de la population. Alors j'ai regardé, si on prend la population des succursales Cambrai, Douai, on est entre 20 et 30 000 habitants à partir des années 80, et on a un cas inexplicable, c'est Solesmes. En 1912, il y a 6250 habitants à Solesmes, et pourtant il y a une succursale de la Banque de France. C'est quand même très particulier. Ce qu'on observe également en termes d'organisation des strates, c'est que l'Est industriel et manufacturier du département est beaucoup mieux pourvu que l'Ouest agricole. Et puis ce que j'ai pas fait apparaître, c'est qu'il y a une hiérarchie dans les succursales, première, deuxième, troisième classe, c'est classique. Il y a des villes rattachées, c'est ce que j'ai fait apparaître. Donc c'est des villes qui sont dans l'espace, dont la dépendance de la succursale. Là, il y a des villes anciennement rattachées deviennent des succursales. C'est le cas de Maubeuge et Fourmies, qui sont autonomisées, deviennent des succursales alors qu'elles étaient rattachées à Valenciennes. Et puis on a ce qu'on appelle...
Qu'est-ce que ça veut dire d'être rattaché? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire des comptes sur les villes non rattachées?
A priori, non. C'est-à-dire que les villes rattachées, enfin, plus exactement, les villes rattachées bénéficient des mêmes avantages que la ville centre.
Sauf qu'il
n'y a pas de confort.
Donc c'est quoi
les avantages? Bah, on va y aller tout à l'heure, mais...
Toi, t'es une économiste.
Je te promets qu'on en parlera.
On était tous intrigués en regardant la carte par les villes rattachées.
Et puis, il y a les classes réunies, comme les vendeuses immédiates en particulier. C'est le cas des classes réunies lilloises. En plus, tout ça, c'est l'immédiate périphérie. Et puis, place réunie de Roubaix-Tourcoing, c'est pareil, vous voyez que, en gros, c'est dans un fond de poche, et tout ça, c'est un petit territoire.